Bonjour à toutes et à tous, on s'emploie pour vous, se met à table pour vous. Pour ce nouvel épisode, on vous a concocté un bon menu, il vous sera servi minute. Vous l'avez compris, on va parler restaurant, restauration. Alors que ce podcast est enregistré, on vous donne la date exceptionnellement le 19 mai, jour de la réouverture des restaurants en France après 6 mois de fermeture pour cause de Covid-19. Et notre invité dans un instant, ce sera Christophe Weber, directeur de l'UMI du Bas-Rhin, l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Mais avant tout, la parole au président. Daniel Rettler, président, ton hymne est arrivé, comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci, bonjour à tous. Je vais dire quelques mots simplement.
Oui.
Déjà, nous avons été très actifs pendant cette crise sanitaire qui n'est pas tout à fait finie. Nous avons constaté que les visioconférences commencent à lasser et que nous sommes impatients de nous retrouver chez nos partenaires restaurateurs, entre autres, pour justement être dans le présentiel, dans toutes nos activités, donc aussi bien les rencontres café que les ateliers emploi et toutes les réunions avec des consultants, etc., que nous prévoyons. Alors je voudrais aussi rajouter qu'il faudrait que je fasse un appel à nos partenaires pour qu'ils se mettent à jour, s'ils veulent bien, dans leurs dons. Nous en avons besoin. Nous préparons en ce moment le 10e anniversaire de l'association. En principe prévu en octobre, espérons qu'on ne n'auront pas... On croise les doigts qu'il n'y ait pas une nouvelle vague qui suit les vacances, donc on s'y prépare ardemment. Voilà, donc j'ai été très court, mais je voudrais surtout dire qu'il y a des résultats quand même. Nous avons des adhérents qui retrouvent du travail pendant cette période, ce qui est quand même sensationnel, parce que nous avions... peu d'espoir pour certains et ils se sont battus, ils ont suivi les conseils de nos coachs et ça a marché. Voilà, donc on est à votre disposition, vous trouvez tout sur nous sur juniordalsace.org sur internet.
Et merci. Sur la page Facebook, effectivement, voilà. Des juniors d'Alsace. Avec nous pour ce numéro spécial, Christophe Weber, le directeur de l'UMI du Bas-Rhin, et on va déjà se mettre un petit peu en bouche.
Tout ça ? Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Moi, des choufards, je ne ferais même pas une bouchée, moi.
Mais parce que vous savez pas manger, vous allez voir.
Ah, les choux farcis au restaurant, ce repas mythique entre Jean Gabin et Louis de Funès dans Le Tatoué. Christophe Weber, bonjour.
Bonjour à tous.
Alexandra, salut.
Salut, copain.
Et alors, Christophe Weber, une première question très bête, elle tient en un mot. Enfin.
Oui, enfin, ça fait des mois, mais depuis la fin octobre, qu'on attend ce moment. Très honnêtement, nous pensions qu'il ne durerait pas aussi longtemps. On avait imaginé, comme tout le monde, que ça durerait 2-3 mois. On avait plusieurs indices qui nous permettaient de croire en ouverture plus proche. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et avant, vous parliez d'une éventuelle 4e vague. Évidemment, on ne l'espère pas. On espère que ce temps plus long où le confinement a duré un peu plus longtemps, permet justement d'éviter la 4e.
On va croiser les doigts pour cela. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir en ce 19 mai ? À quoi pensez-vous ? Quelle est votre pensée ? Là, il est 10h15, hein, on est à moins de 2 heures de la réouverture des restaurants.
Alors la première chose, évidemment, je pense à tous mes confrères qui sont en train de se préparer. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais le simple fait de se mettre en tenue, de remettre sa chemise, son nœud papillon, sa toque de cuisine, sa veste. Je suis sûr qu'il y a un plaisir indicible de faire juste ces gestes-là, même s'il y en a qui ont fait de l'avant en temps porté. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous nos clients qui sont venus nous voir, qui ont permis de soutenir et pour certains sauver leur activité. Mais là, aujourd'hui, c'est leur moment où on parle, il y a un rayon de soleil qui traverse. Et on espère que ce sera de bon augure pour la suite, même si le sentiment est mitigé. Nous espérions des choses qui sont un peu moins contraignantes. Nous espérions pouvoir ouvrir nos terrasses élargies dès ce matin. Pour différentes raisons, ce ne sera pas le cas pour tout le monde et je regrette vraiment. Et la météo, qui était tout à fait exceptionnelle l'année dernière, cette année, nous la craignons un petit peu plus. Et bon, encore une fois, je suis de nature optimiste, donc j'y crois.
On sent que vous avez beaucoup d'émotions hein, dans ces mots-là. C'est une belle journée quand même.
C'est vrai, et puis c'est vraiment une émotion sincère, parce que c'est des vies qui sont en jeu, hein, au sens propre du terme. On est vraiment passé par des moments qui sont vraiment très compliqués. Alors, je ne vais pas citer, évidemment, mais il y a des personnes à qui je pense plus que d'autres en ce moment, puisqu'elles sont passées par des expériences personnelles qui sont extrêmement douloureuses. Et notamment l'une ou l'autre, au moment de mettre son tablier ce matin et sa veste de cuisine, c'est la vie qui redémarre, voilà, au sens propre.
Mais même pour nous, je vous dirais, moi, je rêve là dans 2 heures, hein, je me prépare déjà dans 2 heures, de enfin entendre quelqu'un qui va venir me voir, va me dire, mais madame, qu'est-ce que l'on peut vous servir ? Mais on en a besoin. Et vous avez raison. Les restaurateurs sont passés par des moments difficiles. Nous aussi, on est prêts, hein, pour venir chez eux.
Eh bien, encore une fois, on vous en remercie. Si vous voulez, tout le monde connaît notre métier. Alors évidemment, le plaisir de la table, le plaisir de la chair, le plaisir du bien-être ensemble. Mais c'est surtout ce niveau social qu'on a plus perdu. Hein. C'était à tous, chacun à notre niveau. Ceux qui embrassent nos professions ont besoin de ce moment de convivialité. Ça fait partie de leur ADN. Et donc, le fait de se retrouver coupé du monde, coupé de ses référents, ça a été vraiment très, très compliqué. Et quand on regarde le grand public, le centre-ville, enfin, n'importe quel centre-ville sans restaurant, c'est une part d'humanité qui manque, quoi. C'est vraiment flagrant. Et c'est ce qu'on espère tous retrouver aujourd'hui et le plus vite possible.
Et ces nombreuses réservations qui ont été faites pour les terrasses, que ce soit à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, en Alsace, Grand Est, dans toute la France, ça vous surprend, cet engouement du public? J'ai vu certains restaurants parmi les plus étoilés de France, ils ont déjà un carnet de réservation jusqu'en décembre.
Alors non, ça ne me surprend pas, parce qu'encore une fois, on a tous ce besoin de convivialité. On n'a pas pu partir, certains ne partiront pas de nouveau cet été pour des raisons diverses et variées, mais c'est le moment de nous retrouver, en ce moment entre nous, parce qu'il n'y a pas de touristes. Et quand on regarde l'année dernière la réouverture après la fin du confinement, il n'y a pas les touristes, mais les Strasbourgeois, les gens de la campagne étaient là pour nous suivre, pour venir... Alors moi, je viens d'un petit village, hein, donc je me réjouis pour le restaurateur qui va ouvrir à midi, qui va accueillir ses premiers clients. Mais si vous voulez, c'est un... on l'attend, mais le fait de le voir venir, c'est quand même extrêmement agréable, hein, je ne vous cache pas. Hein, je ne veux pas dire qu'on l'attendait avec appréhension, parce qu'on était relativement confiant. Mais là, c'est... Bon, je ne veux pas dire un mot de soulagement, parce qu'il y a toujours un petit peu de crainte au niveau météo, mais...
Mais je pense même qu'on peut même aller plus loin, Emmanuel. Les gens se sont vraiment dit, ça y est, nos restaurateurs ouvrent, en plus du moment convivial, on y va, on va les soutenir. On sent vraiment ce besoin, effectivement, de se retrouver, mais aussi de les soutenir parce qu'ils nous ont manqué.
Tout à fait. Et puis, encore une fois, on remercie tout le monde. Alors, ça paraît bizarre juste de dire merci, mais c'est ça sert. Hein, je pense notamment à tous nos fournisseurs également. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais vous connaissez le monde Braticole en Alsace, qui a beaucoup, énormément souffert. Et je parle notamment des 100% Alsaciens qui sont vraiment passés par des moments difficiles, puisqu'ils ne sont pas forcément structurés pour
complètement.
Les grands magasins, mais plus pour la restauration traditionnelle. Nous avons tous nos amis viticulteurs, auxquels il faut aussi avoir une pensée, puisque pareil pour eux, il n'y a pas de touristes. Ils n'ont pas pu vendre. Et puis, vous savez que la concurrence mondiale est quand même très importante. Donc, pour résumer, je dirais bien, buvons du vin d'Alsace, buvons de la bière d'Alsace et de le minéral, le jus de fruits. De toute façon, l'Alsace...
Alors pour les deux premiers, il faut le rappeler avec modération.
Toujours.
Toujours.
Et une petite particularité que vous ne savez peut-être pas, mais sans faire de flagornerie, je crois que l'Alsace, c'est la seule région au monde qui fait tout ce qui se boit. Tout ce qui se boit, on le fait. Voilà.
C'est pas faux. C'est pas faux. Je n'avais jamais pensé.
Moi non plus.
Peut-être pas le café.
Alors, pas le café. J'enlève le café et le thé. Voilà. Parce qu'on va rester modeste.
Oui.
Rien qu'avec le réchauffement climatique, c'est quand même.
Mais
pour le reste, notamment toute l'échelle que vous avez des boissons, à part les boissons chaudes, sont produites chez nous. Et l'Alsace est le premier transformateur de chocolat. Hein.
Oui. Ça, c'est très, très important, effectivement.
Christophe Hébert, c'est très juste ce que vous venez de dire. Évidemment, les restaurateurs ont souffert, mais toutes les autres aussi, tous les autres fournisseurs qui gravitent autour ont souffert aussi.
C'est un écosystème, c'est bien de le rappeler.
Et cela aussi, à mon avis, ça doit aussi être leur bonne journée de joie aujourd'hui.
Tout à fait, c'est pour ça que je voulais les citer, puisque c'est...
Vous avez totalement raison.
Si vous voulez, on s'est rendu compte, enfin, le grand public s'est rendu compte dans cette crise, l'impact qu'a l'hôtellerie de restauration. Parce que parfois, on parle de surtourisme. Bon, je ne vais pas faire de référence aux élections, mais bon. quand on regarde, on s'aperçoit vraiment que ce secteur, c'est vraiment le niveau social qui est vraiment le plus important, puisque c'est tout simplement la rencontre. Imaginez-vous le nombre de personnes qui n'ont pas pu échanger. Ils attendent que ce moment pour pouvoir revivre. On parle de renaissance quasiment. C'est un peu ça qu'on vit aujourd'hui. Quoi.
C'est vrai que le simple geste pour ceux qui ont pu dès ce matin aller sur une terrasse prendre un café, c'est un geste courant à la maison, mais prendre son café en terrasse, rencontrer des gens, être au bord du zinc dans quelques semaines, il y a ce côté social totalement différent.
C'est ça. Et encore une fois, on a vu la ville sans. C'est triste. Hein. Et là, aujourd'hui, on va voir la ville avec. Et même si tout le monde ne nous verra pas, parce que bon, évidemment, il y a des contraintes fortes au niveau économique encore, hein, qui font qu'il y a certains qui ne vont pas ouvrir aujourd'hui. Par contre, le simple fait de voir les parasols ouverts, d'entendre la vie, la vraie vie, entre guillemets, des moments de joie, parce qu'à part les transports, à part les gens qui marchaient, on ne sentait pas grand-chose. Là, on va entendre la vie, quoi. C'est comme le printemps, vous savez, quand on entend les oiseaux, aujourd'hui, on va entendre le bruit des gens qui s'expriment, qui parlent. Voilà, c'est magique.
Il y a quelque chose, effectivement, de presque ésotérique. Ces derniers mois, depuis novembre, au niveau des restaurateurs, des hôteliers, puisque l'UMI, on le rappelle, hein, ce sont les restaurateurs, mais aussi les hôteliers, les bars, comment ont-ils vécu ? Est-ce que certains en ont profité pour essayer de se réinventer ?
Alors, je vais faire la différence entre les trois métiers.
Bien sûr.
Je vais commencer par les bars. Ça, c'est vraiment très compliqué. Alors, pourquoi ? Parce que les bars, par définition, pour faire de la vente emportée, c'est un petit peu compliqué. C'est le moment de convivialité absolue. Hein, quand on parle de plaisir, c'est souvent dans les bars. Et eux, ils ont vraiment souffert. Ils souffrent encore, notamment les bars du monde de la nuit. Il faut quand même savoir ce soir, couvre-feu 21h. Donc les bars qui ouvrent aujourd'hui, ils vont peut-être ouvrir vers 17h, 18h pour refermer à 21h. Donc autant dire que ça va être très compliqué. Dans quelques semaines, ce sera 23h. Il faudra encore attendre pour être sûr qu'on soit libéré de cette contrainte. Les restaurateurs, alors c'est vrai qu'il y en a certains. Alors réinventer est un terme qu'on a tellement extrapolé qu'il commence un peu à m'énerver. Mais le sens de l'adaptation qu'ont eu beaucoup de restaurateurs, franchement, c'est quand même formidable. Après, il y en a parfois qui ont pu le faire plus facilement parce qu'ils ont une carte ou des produits qui conviennent. On va prendre l'exemple de la cuisine italienne ou la cuisine asiatique. Elle est prédisposée pour de la vente emportée par sa nature. Pour tous ceux qui sont spécialisés dans les viandes et dans les poissons, ça commence déjà à se compliquer. Les poissons encore plus, parce que le simple fait de le mettre dans le récipient qui va permettre de le conserver, va dégager de la vapeur, donc va ramollir le produit, va continuer sa cuisson. Donc il a fallu adapter sa carte. Et on en a vu certains qui ont commencé à faire des hamburgers. Bon, pas par plaisir de la cuisine germano-américaine, mais tout simplement puisqu'il fallait adapter le produit. Et le gros, gros, gros souci, et il va perdurer pendant 2, 3, 4, 5 ans, ce sont les hôtels. Et il y a deux sortes d'hôtels. Vous avez l'hôtellerie qui, on y va pour les loisirs. On va prendre l'hôtellerie qui dispose de spas, de services, d'une vue, d'un endroit privilégié qui fait que de toute façon, on ira. Vous avez ensuite l'hôtellerie qui est en périphérie. Celle-là, elle a un peu fonctionné durant la période. Pourquoi ? Parce qu'avec le télétravail, qui c'est qui travaillait ? C'était essentiellement quelques commerciaux et encore dans l'industrie. Donc, par définition, des entreprises qui sont en périphérie. Tous ceux qui sont dans les métiers de service, dans l'événementiel, vous savez de quoi je parle. Hein,
oui.
Vous êtes plus contactés. et je pense à vous aussi aujourd'hui, puisque nous sommes quelque part liés l'un à l'autre.
Ah, complètement. Hein,
nous sommes une grande famille et puis on ne vous a jamais oublié dans les rencontres gouvernementales. À chaque fois, on cite l'événementiel, ensuite on cite les traiteurs, etc. Mais l'hôtellerie, ça va être dramatique. Tant que l'aérien ne fonctionnera pas correctement, il n'y aura pas. Par exemple, on va prendre Strasbourg événement. Le plus gros événement qui va arriver, ça va être la foire européenne. Et ensuite, derrière, au mois de novembre, il y aura le congrès de l'UMI, donc notre syndicat national, qui va venir avec ses 104 délégations départementales. Et ce sera le premier gros congrès sur Strasbourg. Donc ça va être un petit événement. Mais regardez le Parlement qui n'arrive la première fois qu'au mois de juin, alors que Bruxelles était plus contaminée que Strasbourg. Donc c'est juste scandaleux. Et tout ça réuni font que les hôtels vont avoir, en milieu urbain, vont avoir du mal à redémarrer. Et donc, ça va aller cas 1, cas 1. Et on espère que le support du gouvernement va perdurer pour ces entreprises, que ce soit pour l'activité partielle. Et encore, c'est difficile. Un hôtel, vous avez besoin des services matin, midi, soir. Il faut du monde. Donc, que vous ayez 4 clients ou que vous en ayez 120, c'est exactement pareil. Et là, on se retrouve avec des hôtels qui ont eu 4 clients.
Ah oui, donc ça veut dire aussi personnel, par contre, il faut qu'il soit là. Ben, on ne peut alors, pas s'empêcher.
Le personnel, on ne peut pas ne pas le payer. Voilà, enfin, il y a tout c'est un ça. Enchaînement.
Donc, il y en a qui se sont débrouillés, plus ou moins. Alors, ces chefs d'entreprise, j'ai vu des entreprises où vous avez ils font tout, quoi. La réception, les petits déjeuners.
On met la famille à contribution parfois aussi, parfois pour aussi. Avoir un petit peu de main-d'œuvre un peu plus facile.
Et encore, c'est difficile vis-à-vis de la loi, donc il faut faire attention.
Oui, tout à fait.
Il faut cadrer les choses. Et cette période de tension pour les hôtels va durer un petit peu, et on espère le moins longtemps possible. Alors, on a eu l'expérience du 11 septembre, parce qu'après le 11 septembre, on avait dit qu'il faudrait beaucoup de temps. On a mis 2 ans pour s'en remettre. Sauf que le 11 septembre, c'était dans les années 2000, là, avec le télétravail, les Zooms, les machins. Enfin, on a adapté un petit peu nos systèmes de production. Enfin, les entreprises ont adapté leur système. Le redémarrage, vous avez bien vu pour l'aéronautique, hein,
oui.
ça prendra du temps. Ouais. Et l'événementiel, alors vous avez un effet d'entonnoir. Parce que bon, quand je regarde les dates de concerts qui sont programmées, il y aura peut-être un surplus.
C'est de plus en plus tard, effectivement. Les concerts qui étaient prévus là pour jusqu'à l'été sont tous reportés les uns après les autres, à nouveau.
Mais après... Et le tourisme aussi.
Alors, si on regarde je ne suis pas là pour faire de politique, mais le protocole sanitaire. Je n'arrive pas à comprendre tous les gens qui refusent le protocole sanitaire, les vaccins. Par contre, quand ils vont aux États-Unis, on leur prend les empreintes, l'iris des yeux, ça leur cause pas de problème. Quoi. Voilà, c'est un peu la contradiction. Parce que si on arrive, alors, je peux comprendre ceux qui veulent pas, hein, ça c'est pas le débat, mais ceux qui veulent pas faire l'effort de se dire, ok, on va donner les moyens pour tout un pan de l'industrie de pouvoir fonctionner.
Ah, une forme d'égoïsme, hein, une forme d'égoïsme, effectivement.
Ça cause problème.
Mais... Dans la restauration, effectivement, ils se sont réinventés. Je sais que vous n'aimez pas le terme, hein, donc ils ont changé, adapté aux conditions. On a vu aussi, vous le dites très justement, hein, pour certains, ça leur a sauvé leur entreprise, sauvé des emplois, parce qu'on oublie aussi. C'était cette digitalisation, ces click and collect, c'est dont ils avaient besoin. Qu'en pensez-vous ?
Alors. Là, pareil, on a tout ce qui est hôtellerie, et forcément, eux, ils sont à niveau, il n'y a pas le choix. Parce que là, on parlait de l'aérien, parce que les réservations sont mondiales. Donc, la plupart, un hôtel qui n'est pas digitalisé, c'est pas possible. La restauration, c'est vrai qu'il y a eu plus de mal. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un secteur, je ne sais pas si vous le savez, mais près de 80% de nos membres ont moins de 5 salariés. Je parle au niveau national. Donc, ça fait vraiment souvent des très petites entreprises où l'investissement digital ne valait. Enfin, on ne l'imaginait pas aussi utile ou efficace. Avec les aides, il faut reconnaître, du département et de la région que je remercie au passage, de l'État également, on a pu digitaliser beaucoup d'entreprises. Et puis, on a des fournisseurs. Bon, je ne vais pas le citer, mais le.
Enfin, grand fournisseur brassicole alsacien, entre autres.
Non, je ne parlais pas de celui-là. Je parlais d'un fournisseur alimentaire qui proposait des solutions digitalisées à 100 euros.
Voilà. Ah oui.
Alors que l'aide du département était de 500 euros. Donc, vous voyez, ça a permis de créer. Alors, c'est une simple page web, mais qui vous permet d'y accoler une fonction qui vous permet de payer tout de suite et donc de faire ensuite le click and collect. Puisque le but aussi du click and collect, c'est qu'il y ait moins de manipulation. C'est-à-dire on paye en avance et puis les gens cherchent et repartent.
Mais vous pensez que ça va continuer des échos que vous avez des restaurateurs, ils vont continuer heureusement, avec l'ouverture, c'est quelque chose qui est rentré maintenant directement dans leurs entreprises?
Alors, je vais faire plusieurs réponses. La première, je préfère que les gens viennent chez nous au restaurant.
Clairement. Oui, oui.
Ah oui,
venez,
nous aussi.
Venez.
Venez, viendez, comme dirait. Mais si vous voulez, le click and collect nécessite une manière de fonctionner, une adaptation par rapport au matériel et aux produits. Alors, ça ne paraît pas comme ça, mais encore une fois, les entreprises sont souvent petites, que ce soit en termes de personnel ou de capacité. Ce qui fait que pour faire la gestion de la commande en salle et de la commande à distance, nécessite presque de doubler certains matériels. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais faire, par exemple, un bœuf bourguignon pour mes clients qui sont dans la salle. Et à côté, je vais faire un burger pour la vente emportée, je ne sais pas quoi. Eh bien, je ne pourrais pas faire les deux en même temps, puisque je ne pourrais pas le faire aussi bien efficacement la salle que la vente emportée. Sauf pour ceux qui ont déjà des structures qui sont adaptées et qui, dans leur concept de départ, avaient déjà prévu les deux fonctions. Il y en a, hein, il y en a quelques-uns. Il y en a même qui ont profité de cette période pour investir, et c'est extrêmement courageux, pour justement développer la vente emportée ou la livraison. Pour les personnes qui ont pris l'habitude et pour ne pas dire pris goût à ce genre de choses. Voilà.
Alors pour redémarrer, il faut aussi de la main d'œuvre. Et là, semble-t-il, c'est compliqué et ces quelques mois semblent avoir encore plus compliqué la situation en matière de service. Qu'est-ce qu'il en est exactement, notamment pour vous à l'UMI ?
Pour la chance qu'on a eue, c'est l'activité partielle. Ça, c'est un, faut le reconnaître. L'État nous a soutenus. Alors, quand je dis que l'État nous a soutenus, il faut toujours se méfier. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a eu un carnet de chèques comme ça. Non, non, c'est pas ça qui s'est passé.
Ce sont des prêts, il faudra les rembourser pour.
Voilà, pour le PGE, il faut le rembourser. Ouais. Pour le Fonds de solidarité, il couvre essentiellement certains types de dettes et pas d'autres. Hein. Ce n'est pas, puisqu'une entreprise a reçu 10 000 euros, que ces 10 000 euros qui vont être investis dans une voiture. Non, non, pas du tout. Hein. Le fonds de solidarité couvre les charges fixes pour certains et encore pas pour tous. Donc l'activité partielle a permis de garder notre personnel. Beaucoup d'employeurs ont même couvert les salaires à 100%. Parce qu'il faut savoir que l'activité partielle est à 84% pour ceux qui vont jusqu'à 39 heures. Dans notre industrie, on a beaucoup de contrats, 40, 41, 42. Certains sont payés avec sur le chiffre d'affaires, ils ont l'intéressement. Donc, on a tout un pan qui n'a pas touché 84%, mais qui a touché parfois 70, 60, voire 50% de leur salaire depuis 8 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y en a certains qui ont préféré aller voir, profiter de pouvoir travailler ailleurs en même temps que l'activité partielle. Et il y en a d'autres qui ont effectivement quitté. Alors, quand on dit qu'il y en a beaucoup qui ont quitté, il y a un chiffre qui circule au niveau national qui est de 100 000 personnes. Mais sur ces 100 000 personnes, il y a beaucoup de contrats précaires ou de contrats d'extra. Donc, on ne sait pas s'ils seraient revenus ou pas. Donc, c'est un peu compliqué à juger aujourd'hui. On peut dire que globalement, allez, sur 100% d'effectifs, la grande majorité sont pas loin des 80-85%. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a réussi à garder notre personnel aujourd'hui. Maintenant, pendant cette période de transition qui va du 18 mai au 9 juin, on a la difficulté de la météorologie, on a la difficulté de la jauge. Donc le personnel qu'on a aujourd'hui, a priori, suffit. Par contre, il faut qu'on soit prêt, dès que ça va vraiment redémarrer, pour pouvoir pouvoir recruter. Et là, évidemment, on compte sur nos amis étudiants qui nous ont beaucoup manqué. Et alors qu'on a essayé de soutenir, alors bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui tout de suite font des quand ils ont offert deux choses, ils en font des caisses. Alors nous, on les a soutenus avec la Fédération des chefs d'Alsace, avec des partenaires pour leur offrir modestement quelques milliers de repas. On a offert plusieurs, pas loin d'une dizaine de tonnes de fruits, je crois. Enfin, spontanément, voilà, parce que c'est juste pour dire, on est là, c'est tout.
C'est bien de le dire et c'est bien parce que nos étudiants, effectivement, qui avaient des jobs en extra, qui sont aussi retrouvés sans rien, qui correspondaient également à leurs revenus pour bon nombre, et bravo. Moi, je vous dis bravo parce que vous êtes, en toute modestie, on le dit pas, mais bravo.
Non, mais on était très modestes. Je vais en citer un, Maxime Muller, Brasserie des Haras à Strasbourg. Qui durant toute la période a utilisé des personnes, a proposé à son personnel volontaire d'aider à soutenir et ils ont fait quelques 50 000 repas. Je ne sais pas si vous imaginez.
50 000. C'est exceptionnel.
Énorme.
Voilà. C'est exceptionnel.
Donc, merci Maxime, merci Liara. Voilà.
Et pour la suite, il y a aussi des acteurs de l'emploi. Qui s'emploie pour vous ? Je tourne mon regard.
Oui, effectivement.
On va parler un peu de toi, Alexandra.
Oui, là-dessus, je vais rebondir par rapport au candidat, parce qu'on a aussi vu, moi j'ai eu la chance de pouvoir en accueillir quelques-uns, des personnes qui se sont dit aussi par le confinement, il faut le dire, des pères de famille, des mères de famille, se sont dit, tiens, je vais profiter de cette période-là, parce que c'est aussi bien de profiter de sa famille le week-end. On a aussi eu des belles histoires, des reconversions, et puis d'autres qui sont effectivement portées volontaires. Et oui, l'offre d'emploi, que l'on connaît, le site. Nous offrons à l'ensemble des restaurateurs jusqu'à fin juin, mais s'il faut que ça dure jusqu'à fin juillet, on leur offrira toutes les parutions gratuites pour leur recrutement. Donc, ils pourront nous appeler à l'offre d'emploi parce qu'on sait que ils sont en difficulté ou ils vont peut-être l'être à un moment ou à un autre. Pour recruter, l'offre d'emploi sera là, va les soutenir, on les accompagnera dans leur recrutement et ça sera avec grand, grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Alors, j'en profite. Vous savez, quand on donne un bras, on essaie de prendre l'un.
allez-y.
On voudrait aussi faire une campagne pour l'apprentissage. Et proposer...
Dans le micro. Ça sera mieux dans le micro, Christophe.
Comme ça, je la vois mieux.
Oui.
On voudrait aussi proposer à nos entreprises de pouvoir faire des recrutements en apprentissage, puisque vous savez que c'est un vrai sujet, l'apprentissage, puisque pendant un an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le geste professionnel a pu être acquis que partiellement. Et il nous apparaît nécessaire de nouveau réenclencher la fonction apprentissage dans nos entreprises, puisque c'est notre personnel de demain.
Oui, et c'est vrai que notamment au lycée hôtelier ou au CFPA, ils ont eu beaucoup de difficultés pour leurs étudiants à trouver ces fameux stages de professionnalisation pendant cette période. C'était très compliqué pour eux aussi.
Donc, moi je suis issu du CFPA, donc j'accorde des contacts très réguliers avec l'équipe. Étant issu du lycée hôtelier, évidemment, j'ai de très bons rapports avec mes homologues du lycée, notamment le chef des travaux Frédéric Lachenam. Et puis la difficulté était vraiment ça, c'est-à-dire de trouver l'entreprise qui peut accueillir le stagiaire. Parce que le paradoxe, on ne peut pas accueillir un stagiaire si on a une activité partielle. Mais si on ne l'accueille pas, le stagiaire ne l'apprendra jamais. Donc, comme on entretient d'excellentes relations avec les différents services de l'État, que ce soit la préfecture, on est en relation constante... avec la DRETS, l'ancienne directe, l'inspection du travail, on a d'excellents rapports et on a pu, par des échanges tout simples, de dire oui, on peut accueillir un stagiaire à condition qu'il y ait bien un tuteur, pour ne pas non plus qu'on soit en porte-à-faux par rapport au temps partiel. Donc on peut dire que tout le monde, tous les différents acteurs, sont allés dans le même sens et très franchement, j'espère que cette situation-là, on a prouvé qu'on peut fonctionner ensemble, qu'elle perdure le plus longtemps. Parce que c'est comme ça qu'on est efficace, c'est comme ça c'est comme ça que doit fonctionner tout le temps.
Alors moi je rebondis puisque vous m'aviez demandé le bras, je vous le donne. Je vous le donne et l'offre d'emploi effectivement sera aussi là pour les candidats qui cherchent, mais aussi les restaurateurs qui chercheront l'apprentissage. Et moi ça sera avec grand plaisir que je vous propose même de publier un article. Donc directement sur le site que nous partagerons sur les réseaux sociaux. Et je pense que les juniors se joindront à moi. Je prends l'autre bras, Daniel. Bras. Voilà.
Le bras présidentiel. Moi, j'aimerais aborder deux autres sujets qui sont en lien avec la culture de la restauration, avec l'emploi dans la restauration. Il y a un premier sujet. Alors, c'est deux sujets qui sont un peu poil à gratter. Je vous le dis tout de suite, Christophe. Le premier, ce sont ces émissions de télé qui se multiplient autour de la cuisine et qui laissent à penser que tout le monde peut devenir chef, tout le monde peut devenir grand pâtissier. Alors, un, est-ce que ces émissions, elles font autant de bien que de mal? Et deux, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des émissions pour montrer le meilleur sommelier, le meilleur serveur, le meilleur maître d'hôtel, pour montrer la diversité des métiers de la restauration?
Poser la question, c'est y répondre. Ben oui, vous avez tout dit. Ces émissions ont fait...
Yes.
On sent les bons journalistes investis. On sent peut-être aussi quelqu'un qui aime bien manger aussi.
Surtout. Voilà. Surtout.
Si vous voulez, ces émissions, elles ont un avantage pour nous très clair. Elles éclairent une profession sur le bon côté. Par contre, quand on parle de télé-réalité, ben c'est la télé, mais ce n'est pas la réalité. Alors, je vous donne un exemple concret. Dans mes précédentes fonctions, j'étais dans l'enseignement et je rencontrais parfois des parents qui me disaient, au bout de quelques semaines d'apprentissage, « Je ne comprends pas, mon fils, on ne lui a même pas encore appris à faire du foie gras. » Je dis, écoutez, oui, vous savez, il faut un temps quand même. Hein. Une maison, ça se construit dans les fondations, puis ensuite on met les premiers murs, ensuite le rez-de-chaussée, l'étage, etc. Et elle me dit, non, mais quand on regarde à la télé, ils sont beaucoup plus rapides. Je dis, oui, mais à la télé, vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Ensuite, elle me dit, ah, mais mon fils, il fait beaucoup de taillage. Je dis, mais oui. Elle dit, mais quand vous les voyez à la télé, ils ne taillent pas. Ben non, parce que ce qu'ils font en 5 heures, on vous le montre en 1 heure.
C'est ça.
Et on ne montre pas le nombre de personnes qui sont derrière en train de préparer, d'aider. Alors, j'ai pu assister à quelques tournages. Et évidemment, on vous montre la partie qui est la plus télégénique. Je sais pas si
la plus glamour, tout simplement.
Voilà, ce qui est un petit peu beau à l'image. Par contre... Quand vous voyez le... Enfin, Top Chef, je regardais un petit peu au début, Master Chef un peu moins, puisque... Bon, ou les pâtissiers, je ne sais pas comment ils s'appellent, là, les amateurs...
Cyril Lignac, hein, avec...
On sent l'amoureuse.
Pâtissier, voilà.
Oui, voilà, je me demande s'il y avait un autre physique, si vous avez essayé de regarder l'émission, mais bon.
Ah.
Mais là, si vous voulez, tout ce qui est passion, moi, ne me dérange pas, au contraire, hein, j'adore. Enfin, c'est encore une fois, je vis ce métier et j'adore ce qu'on y fait. Par contre, il faut qu'on soit juste aussi. Et on peut pas dire à quelqu'un, mais enfin, messieurs, je pense que de temps en temps, il vous arrive de faire la cuisine à la maison, ou parfois c'est quelqu'un d'autre qui le fait, plus généralement. Et quand nous, on se met à cuisiner, c'est bizarre, il y a les vaisselles partout.
Un peu beaucoup,
oui.
Trop.
Et trop, peut-être, en fait, pas attention. Et ben dans une cuisine, ben on cuisine, on fait attention. Mais ensuite, il y a également une phase technique, hein, ce qu'on appelle la mise en place. Et quand vous arrivez au restaurant, quand on arrive à servir, je pense aujourd'hui près de la cathédrale, j'imagine qu'il y a un restaurateur qui va faire plus de 100 couverts. Ben, pour faire ces 100 couverts, ils ont commencé hier à préparer, tailler, etc. Pour qu'en moins d'une heure et demie, on puisse envoyer 200 couverts. Ben, c'est tout ce travail-là. Ben c'est ce qu'on appelle la mise en place, et ben ça prend du temps. Et ensuite, l'envoi, ben il faut que l'envoi il soit très structuré, ordonné. Alors quand je vois, il court de tous les côtés, de tous les sens, dans une vraie cuisine, bon, je sais que ça bouge, mais si on court comme ça, ben on a plus de risques d'accident qu'autre chose, quoi. Donc oui, ces émissions sont bien, mais elles ne montrent pas tout. Et c'est un peu le travers qu'on peut leur reprocher. Et parfois d'être trop... les jurys sont parfois trop cruels par rapport à ceux qui voient. Enfin, c'est un avis. Et toute la dimension du service est occultée. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le meilleur cuisinier du monde. Si je vous balance l'assiette devant vous, si vous n'êtes pas content, si les couverts ne sont pas propres, si le personnel ne peut pas vous faire le meilleur vin au meilleur moment... Ben, ça ne sert à rien. Enfin, oui, il manque quelque chose, quoi. Et toute cette notion de service nous manque aujourd'hui et nous manque terriblement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 ans, 5 ans, dans les départements d'outre-mer, il y avait une grève du personnel qui ne voulait pas être servile,
oui,
par rapport aux touristes, quoi. Et ce que je regrette, et qu'on a perdu au niveau encore plus, je pense, avec le Covid, c'est la notion de service. Rendre service aux autres. Et moi, j'ai la chance d'avoir des membres de la famille qui étaient restaurateurs et j'ai commencé à travailler chez eux. Et après, je suis passé en salle, au métier du service. Et je suis resté le jour où j'ai compris que les pourboires, je pouvais les garder. Parce que, bon, mine de rien, ça aide.
Chut.
Je ne plaisante qu'à moitié. Enfin, il n'y a pas de pourboire, hein, on est d'accord. Hein,
non,
voilà,
non,
on est
non.
D'accord.
On oui, non, non, on va couper.
On coupera au montage. Mais le plaisir, enfin, j'avais travaillé au Camerdzel et je me rappelle encore aujourd'hui, c'est tout bête, hein, d'un couple. Je les voyais, un couple, on sentait qui voulait se parler, qui se rapprochait, mais qu'aucun des deux qui osait franchir le pas. Et puis, Camerdzel, tout autour, il y avait toujours des musiciens, des machins comme ça. Et puis, je les voyais, mais vraiment timides, et c'est rigolo. Hein, la terrasse est
très
pleine.
Très fleur bleue.
La terrasse est pleine, et puis vous voyez ça. Et puis, je cherche plus loin un peu le violoniste, quoi. Et puis, je dis, rapprochez-vous, là. Et puis, il y en a une qui chantait Edith Piaf, La vie en rose, quoi. Punaise, alors je dis, lance-lui ça.
Et alors, et la fin, alors, ça a marché?
J'ai eu 20 francs de pourboire.
Oui, mais alors, eux, ils sont en couple?
Je plaisante, évidemment. Non, non. Franchement, c'est tout bête, mais la fille a pleuré, quoi. Voilà. Ouais. C'est tout bête, mais c'est des moments comme ça. C'est bête, hein, je vous raconte ça aujourd'hui, 30 ans ou 35 ans après.
Ouais, mais c'est beau.
Mais
c'est beau, tout simplement.
Mon métier, c'est ça. Quand j'étais enseignant, on me demandait toujours, mais monsieur, quel est le meilleur vin du monde? Je dis, mais le meilleur vin du monde, c'est le vin que vous allez partager au meilleur moment avec la meilleure personne. Point, cherchez pas. Si vous êtes devant vos résultats d'examen, je vous donne un Romane Conti et que vous n'êtes pas sur la liste, ça va être du vinaigre. Si je vous sers un petit vin, que vous êtes avec quelqu'un, vous avez passé un très bon moment entre amis, vous allez trouver que c'est un super vin.
C'est la relativité des choses. Einstein appliqué à la restauration, finalement.
Absolument.
Et puis, puisqu'on parle d'Einstein, la physique, on va passer à la chimie. Moi, j'ai toujours entendu les chefs avec qui j'ai pu parler me dire, par rapport à ces concours télé, notamment, tout ce qu'il faut savoir déjà, c'est bien cuire un œuf mollet, un œuf coq et un œuf dur. Mmh. Et le reste, on le voit après. Et finalement, c'est presque une épreuve difficile de savoir très bien cuire un œuf.
Absolument. Encore aujourd'hui, dans les écoles hôtelières, on apprend, c'est dans la progression, on apprend à faire des œufs durs, des œufs mollets, des œufs à la coque. C'est tout simple, mais un œuf mollet, ça nécessite des techniques. Hein, pour que le blanc soit dur, le jaune soit coulant, ça se fait pas n'importe comment. Moi, mon prédécesseur, Jean-Louis Stéphane, disait toujours, un bon cuisinier, enfin, c'est pas compliqué, on le voit tout de suite, hein, il sait s'il sait faire une tarte, une quiche, si c'est faire une blanquette de veau, c'est qu'il sait cuisiner. Pourquoi ? Parce qu'on prend différentes étapes de préparation qui font que c'est pas la recette qui est importante. C'est la technique qui permet d'amener la recette. Parce qu'après, vous y changez les ingrédients, vous y changez certaines choses et vous pouvez adapter vos recettes. Alors Thierry Marx, que tout le monde connaît, a appliqué même de manière un petit peu très puissante, même trop. Il a dit, cuisine, c'est tant et tant de gestes. Alors, je ne sais plus de mémoire, c'est 80-90 gestes. On apprend ces 90 gestes, on sait cuisiner. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que nous, on parle toujours de cuisine par concentration, expansion. Enfin, ce sont vraiment des choses basiques. Alors, quand on cuisine, on ne se rend pas compte, mais vous appliquez une technique précise. Une fois que vous avez cette technique, elle se duplique. Voilà. Si vous savez faire une tarte aux pommes, c'est que vous pouvez faire toutes les tartes que vous voulez. Si vous savez faire une quiche, c'est que vous savez faire toutes les pâtes salées qui vont avec. Vous voyez. Alors, il y a quelques grands points qu'il faut connaître. Une fois qu'on les a, après, on peut les cuisiner, puisque cuisiner, comme on dit, c'est un métier. Par contre, je préfère retenir la formule d'Emile Jung, que je salue là-haut, mais avec beaucoup d'émotion et d'amour, quoi. Emile Jung qui disait la cuisine, une bonne cuisine, c'est un bon assaisonnement. Voilà.
C'est
quelqu'un
joli.
Qui sait très, enfin qui quand c'est à bonne température et assaisonné, le plat déjà est réussi. Voilà.
Là, vous nous avez mis en appétit, Christophe. Ouais. Une question. Alors là, ça va peut-être couper l'appétit, je ne sais pas. Ce sont ces services de livraison dont on entend pique-pendre quant aux conditions de travail et qui sont liés très directement au métier de la restauration.
Alors, tout au début de notre échange, on a parlé de vente à emporter. Alors moi, très clairement, hein, je préfère de loin la vente emportée à la livraison, pour deux raisons. La première, c'est une raison éthique. Quand vous regardez certaines sociétés, de la manière dont elles ont évolué, sachant que certains personnels profitent pour donner leur autorisation à d'autres, je ne vais pas m'en mêler, ce n'est pas le sujet, mais bon, au niveau éthique, c'est déjà, ça ne va pas. Ensuite, dès que vous arrivez dans un restaurant, que vous faites une livraison, ça veut dire que vous allez payer le service, qui est normal. Mais ce service est facturé doublement et il y a des taux qui sont très importants. Ça veut dire que quand vous arrivez, la plupart des restaurateurs vont avoir une commission aux alentours de 30%. Donc, ça veut dire que concrètement, un plat que vous payez 10 euros, le restaurateur n'en a que 7. Le livreur, lui, en a 3 euros. Par contre, qui c'est qui les reçoit, ces 3 euros? Est-ce que c'est le livreur ou c'est plus haut?
C'est pas le livreur. Hein.
Le livreur, il va toucher une partie, on ne sait pas laquelle de ces 3 euros.
On ne sait pas laquelle, voilà. Donc nous, très clairement, on préfère que les gens se déplacent, qu'ils mangent à l'intérieur. Voilà.
Et puis ne serait-ce que pour avoir ce rapport avec le restaurateur, même si ce n'est pas le même rapport que quand on est dans le restaurant, il y a quand même un petit rapport social.
Je donne juste un exemple, puisqu'on va arriver dans la saison des mariages. Beaucoup de familles pensent que le faire dans une salle des fêtes, salle communale, c'est moins cher, on sera plus à l'aise, etc. Et dans les faits, vous regardez, la plupart du temps, vous le faites dans un restaurant, ça vous coûte moins cher, puisque le temps de préparation, le temps de rangement, le temps de tout ce temps qui compte pas, et les soucis qui vont avec, c'est le restaurateur, c'est son métier, il le prend sur lui, quoi. Voilà, c'est toute une organisation. Alors, pour aller au fond de votre question par rapport à la livraison, on est on a pour parler avec la ville et puis des acteurs, notamment la Maison de l'Emploi, qui a une activité qui s'appelle activité à la carte, qui permet de proposer des petits jobs à des personnes qui sont en difficulté. Nous, on voudrait bien arriver à monter un système éthique, j'insiste sur le mot, pour les livraisons, pour que les personnes soient salariées, et arriver à un système de consignes également avec les restaurateurs. Parce que la vente emportée, c'est bien, mais quand elle génère les déchets qui vont avec, c'est un peu dommage, quoi. Parce que parfois, on nous les impute, mais ils ne sont pas tous notre fait. Si on arrive à un système où on peut arriver à la consigne, comme on le fait sur le marché de Noël ou autre, et je pense qu'on peut le monter, et puis quand bien même, je pense que ce sera obligatoire dans quelques années, donc autant l'anticiper. Et là, tout le monde y gagnera. C'est-à-dire, ce coût-là, il ne sera plus pour le restaurateur, donc plus pour le client. Par contre, on peut le mettre sur le livreur, vous voyez, pour transposer cette charge. Et dans d'autres pays, ils le font. J'étais à Londres il y a 2 ans. Avec mon épouse, on se promène au bord de la Tamise. Et puis, des odeurs magnifiques, très alléchantes.
Ça sent le resto indien, ça.
Alors, il y avait, franchement, c'est un peu de curry, je ne vous cache pas. C'est ce qui nous a mis. Et puis, on arrive, et puis là, on voit aller une vingtaine ou une trentaine de stands. Il y avait un peu de tout, il y avait des food trucks, de tous les pays. Vous connaissez Londres, parce que vous êtes déjà allé. C'était vraiment extrêmement cosmopolite.
Ça sent Camden, ça.
C'est ça.
Ah, voilà.
On arrive. Et puis on choisit avec les effluves, on s'arrête sur un stand et puis on fait la queue. Et puis au bout d'un moment, je regarde à droite, à gauche, ils ont tous des récipients. Alors, bon, je me dis c'est normal, ils ont leur bureau au-dessus. Et puis au moment où on passe, et puis ils nous demandent si on a le récipient, non, je peux pas vous servir.
Et une queue juste pour ça. Non mais.
Et voilà. Donc.
Messieurs les Anglais, tirez les premiers une fois de plus. Hein.
C'est ce qu'ils ont fait. Et donc on arrivait sur une espèce de fast-food, donc je citerai pas la marque, mais j'avais honte. Et voilà, c'est juste pour dire, si ça va venir. Quand on fera de la vente emportée, j'allais dire, mais venez avec vos récipients, puisque tant qu'à faire, au moins vous êtes sûr, ils sont les vôtres, vous n'avez pas de doute, ils seront au chaud, etc. S'ils sont grands, en plus, on peut mieux dresser que dans des petits.
Bien sûr.
Dans des petits récipients. Et si on arrive à un système de consigne comme on le souhaite, on n'aura plus ce problème-là du tout, puisqu'à ce moment-là, le système de consigne serait géré. Avec un financement qui est entre le client, la collectivité et le restaurateur. Et tout le monde y gagne.
Donc il faut arriver à ce système-là le plus vite possible. Il faut qu'on soit, pour une fois, prêt.
Exactement. Et lançons-le à Strasbourg.
Je pense qu'on va l'anticiper. Et donc, si la municipalité a la couleur qu'elle dit, c'est le moment de le montrer.
Eh bien, écoutez, le message est lancé.
J'avais le maire de mon village avait une expression que j'adore. Il a dit l'écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Voilà. Moi, je préfère ceux qui la font.
Eh bien, écoutez, on va lancer effectivement cet appel. Alors là, il est bientôt 11h. Dans un peu plus d'une heure, les restos vont rouvrir. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à toutes et à tous. Ces premiers repas, ça sera quoi dans l'assiette, Alex ?
De la viande.
Ben laquelle ? Non, c'est pas assez précis.
Un bon morceau de viande, allez. Côte de bœuf ?
Côte de bœuf pour toi. Président.
Cuisine internationale. Je vais voir ce que je vais trouver, mais je vais peut-être m'orienter aussi peut-être plus vers les poissons, tout ça.
Les poissons. Et vous, Christophe ?
Alors, moi, je suis un Alsacien pur souche, un inconditionnel à terre flambée. Je me réjouis pour... Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix avec ma famille.
Ah oui.
Je me réjouis pour m'asseoir et une bonne terre flambée.
Voilà. Bon, bah, ça serait une deuxième flammekuche pour moi. Ah oui, j'ai pu en manger une dans un excellent food truck pendant ces 6 mois. Mais rien ne remplace le plaisir d'aller dans un restaurant terre flambée, d'avoir la nappe en papier, de dessiner sur la nappe en papier. Et je suis sûr qu'un artiste... Moi, je lance un appel aux artistes contemporains. C'est de prendre ces nappes en papier et de les exposer. Je suis sûr qu'il y aurait des œuvres d'art contemporain à faire.
Tu sais quoi, Emmanuel, j'ai envie de faire un truc pour finir. C'est, on a applaudi nos soignants qui le méritaient. Ouais. Et ben moi, j'ai envie d'applaudir
nos hôteliers, restaurateurs et barmen.
Exactement.
Allez.
Allez, on y va.
Merci. Voilà.
Merci. Merci pour eux.
Et merci à vous, Christophe Weber, d'être passé. On vous dit à très, très bientôt pour faire un nouveau point d'étape sur ces réouvertures de restaurants.
Avec plaisir.
Daniel, le mot de la fin pour le président.
Bah déjà, merci Christophe d'être venu.
Des choses.
C'est quand même une profession qui nous intéresse beaucoup. Je pense que les explications étaient très riches. Et je pense qu'on a tous un peu appris des choses très intéressantes. Et puis, on va se dépêcher de retourner chez nos amis restaurateurs le plus vite possible.
Et on se réjouit d'être tous ensemble sur les événements qui nous manquent tant.
Oui, oui.
Eh bien... L'offre d'emploi sera là, avec vous. Je l'ai promis. Emmanuel, on va... L'apéro ?
Allez, apéro tout de suite et à très vite pour un nouveau numéro dont s'emploie pour vous le podcast des Juniors d'Alsace. Toute l'actu des Juniors à retrouver évidemment www.juniorsdalsace.org. À très vite et on se quitte avec celui qu'on appelle la souche parce qu'on mange trop.